Le quart d'heure e-sport, une émission sur l'actualité et l'agenda des tournois e-sport locaux, nationaux et internationaux. Retrouvez-nous tous les dimanches à 14h sur Studio ZF1. Bonjour à tous et bienvenue dans le quart d'heure e-sport. J'espère que vous allez bien. Après un bon mois et demi de vacances, c'est la rentrée et le quart d'heure e-sport est de retour pour une sixième saison. Cette année, on ne se retrouvera plus le dimanche à 12h30, mais le dimanche à 14h sur le 91.1 FM pour Blois et ses environs, sur le 91.7 pour Vendôme et ses environs, et aussi sur studiosf.fr. Après 5 saisons du quart d'heure e-sport passé, les émissions d'actualité et d'agenda e-sport évoluent avec l'arrivée de deux nouvelles rubriques en plus de celles existantes. Tout d'abord, il y aura un agenda des tournois e-sport féminins pour mettre davantage en avant les femmes dans l'e-sport. Et aussi un focus sur un sujet précis dans l'e-sport que je choisirai de mettre en avant. Enfin, comme d'habitude, je continuerai à recevoir des invités tout au long de la saison qui parleront de leurs tournois et événements e-sport à venir ou tout simplement pour échanger sur des sujets précis dans l'e-sport. Exceptionnellement, pour cette première émission de la saison, il n'y aura pas ni d'actualité e-sport, ni d'agenda des tournois e-sport et ni d'agenda des tournois e-sport féminins dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais uniquement un focus sur l'Ozu French Tournament 2024, le championnat de France sur Ozu, un jeu de rythme musical. Comme vous le savez peut-être, l'Ozu French Tournament 2024, un tournoi ouvert à tous sur Ozu, a débuté le 14 septembre dernier et se terminera le 13 octobre prochain en format online. Ce tournoi est organisé par l'association Ozu FR Live. Durant plusieurs week-ends, 32 joueurs s'affrontent pour remporter le titre de champion de France et aussi 250 euros de cash prize à se répartir entre les meilleurs joueurs du tournoi. Les matchs sont à suivre tous les week-ends sur la chaîne Twitch d'Ozu FR Live. Enfin, retrouvez toutes les informations sur la page X de Ozu FR Live. Dans cette émission, je serai accompagné de The Poon, président de l'association Ozu FR Live, et également de Subaru Arima, caster sur Ozu, à propos de l'Ozu French Tournament 2024. Pour information, cette interview a été réalisée le 9 septembre dernier. Tout de suite, la première partie de l'interview. Bonjour The Poon, bonjour Subaru Arima, merci de m'avoir accordé du temps pour cette interview. Pouvez-vous vous présenter ainsi que l'association Ozu FR Live?
Bonjour à toi Sarah, bonjour à tous les auditeurs. L'association Ozu FR Live organise depuis 2015 de nombreux tournois sur le jeu. On tourne actuellement à un rythme d'une dizaine de tournois par an répartis sur les 5 modes de jeu. Aussi bien en ligne, où on organise notamment les championnats de France, mais aussi en LAN, avec des tournois à l'UTT Arena à 3, à la Gamers Assembly à Poitiers, et très prochainement, le samedi 28 septembre, à l'Université de Paris-Sorbonne. Notre objectif, c'est de faire vivre la scène compétitive du jeu en France et faire connaître le jeu dans les événements qui façonnent la scène e-sport dans le pays.
Ça marche.
Subaru.
Pardon, excuse-moi, j'ai une petite coupure. Donc bonjour, je me présente, je suis Subaru Arima et donc je travaille également pour Ozu FR Live en bénévolat et je suis plus précisément commentateur de match. Donc c'est-à-dire que je vais pas vraiment participer à l'organisation des tournois en tant que tel, mais je serai présent sur beaucoup d'entre ces tournois pour commenter les matchs et commenter également les reveals des mapools, donc les chansons qui seront jouées pendant les tournois. Et je suis là en ligne comme Olan d'ailleurs, puisque je me déplace également pour ces événements depuis l'année dernière. Et ça fait depuis août 2022 que je commente du coup de manière très assidue sur cette chaîne.
Ça marche, et d'où vous êtes venu de créer l'association Ozu Live FR? Parce que il me semblait qu'au départ c'était une communauté de joueurs qui s'est ensuite transformée en association.
Ouais, c'est un peu ça. Donc, Ozu FR Live a été fondé par trois personnes, Sorega, Musty et Swanou en 2015. C'était à la base plus une chaîne Twitch qui fonctionnait sur le modèle de Web TV qu'on voyait souvent à l'époque, où beaucoup de joueurs se relayaient pour streamer sur une seule et même chaîne Twitch, ce qui permettait d'accorder en fait aux streamers français un peu plus de présence sur Twitch à l'époque où notamment les algorithmes de recommandation n'étaient pas très perfectionnés, où c'était juste trié par nombre de viewers. C'est souvent sur ce principe que fonctionnaient les et Web TV à l'époque. Mais ce collectif organisait aussi quelques tournois. C'est notamment eux qui ont repris les championnats de France depuis 2015 dans le mode de jeu standard. Et j'ai ensuite repris ce projet en 2018, si je me souviens bien. Et on est devenu une association loi 1901 fin 2019 ou 2020. Mince, j'ai plus les dates, ça commence à faire un petit moment, excusez-moi. Voilà l'idée. En soi, l'aspect Web TV, il s'est arrêté assez rapidement parce que bah avec les autres Web TV qui ont arrêté pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que c'est une activité, le live streaming, qui est devenu beaucoup plus personnifié dans ces années-là, et avec les algorithmes de recommandation aussi qui fonctionnent plus vraiment par nombre de viewers.
Bah, c'est vrai qu'il y a eu l'émergence aussi de gros streamers aussi, dans les années 2010, et c'est vrai que maintenant, des contenus sur Twitch notamment, on trouve vraiment de tout et n'importe quoi. Ça peut aller de simples parties de jeux vidéo jusqu'à des trucs, on va dire, plus politiques. Hein. C'est...
Ouais. L'association, elle organise donc les championnats de France depuis 2015, mais en réalité, ils ont lieu depuis 2011, dans le mode de jeu standard, chaque année. On est donc là, actuellement, en train d'organiser la 14e édition, si je compte bien. 14, ouais. Donc, ça dure depuis un moment, et on aura l'occasion d'en retoucher quelques mots, sûrement, mais on a des parcours... Au fur et à mesure de ces années, assez édifiant. J'ai moi-même été champion de France avant de reprendre l'organisation.
Ah oui.
Et on y reviendra.
Bah en fait, là, il y a pas mal de choses intéressantes qui ont été dites. Donc, on parlait notamment du tournoi qui va avoir lieu fin septembre à la Sorbonne. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus dessus ?
Oui, c'est un tournoi qui est gratuit déjà. C'est assez hors du commun pour une LAN. On vise 32 joueurs dans le mode standard et pour la première fois, on organise un tournoi en LAN en Taiko. C'est un mode de jeu où on doit taper sur les tambours. C'est inspiré de Taiko no Tatsujin. C'est un jeu de rythme assez connu en France. On le voit souvent dans des conventions. Et ce tournoi Ouzu Taiko, une première en LAN en France, sera ouvert à 16 joueurs également. L'entrée est gratuite aussi bien pour les joueurs que les spectateurs. Ce sera au campus Pierre et Marie Curie à Paris.
D'accord. Et aussi, tu avais parlé également d'autres tournois, notamment l'Ozu French Tournament, dont tu as parlé tout à l'heure. Et est-ce que tu peux en dire un peu plus dessus ?
Alors, du coup, les qualifications sont actuellement en cours, à l'heure où on se parle. On va donc, dès ce soir, avoir les résultats et l'arbre à 32 joueurs. Dans lequel les participants vont se battre pour déterminer le titre de champion de France 2024. On aura sûrement un podium assez intéressant cette année qui va être beaucoup bousculé. Je laisserai Subaru prendre le relais sur cette partie. Mais ça annonce être une année très intéressante. Donc on révèle les qualifiés ce soir à 21h sur notre chaîne Twitch. Et on aura ensuite 3 semaines d'arbres avec une pause pendant le tournoi à la Sorbonne. Avec donc le champion de France qui sera connu le dimanche 13 octobre.
Ah, c'est tout proche.
Eh oui, ça va aller assez vite.
Subaru, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter ou à compléter ?
Ouais, bien sûr, je vais peut-être prendre un petit peu la main là-dessus pour le tournoi, pour l'Osu French Tournament. Donc, comme Poon l'a souligné tout à l'heure, c'est un tournoi qui va être assez disputé cette année. Et ça mérite un petit peu de contextualisation pour ça, parce que, en fait, donc la France n'est pas le seul pays à tenir un tournoi national annuel. Mais contrairement à beaucoup de pays, la France a eu une histoire assez intéressante dans le sens où on a eu des joueurs qui sont vraiment restés au sommet en termes de niveau pendant très, très, très longtemps. Et bah, typiquement, on a The Poon ici présent qui est un exemple relativement notable, on va dire, puisqu'il a quand même gagné 5 fois d'affilée le championnat de France, du coup, de 2016 à 2020. Mais on a également Musty, qu'on a brièvement mentionné tout à l'heure, qui est à l'origine de la fondation de Zoé Fairlife, qui a aussi gagné 3 fois dans les années les plus anciennes, on va dire, parce que c'était en 2012, 2013 et 2014. Et bien, sachez que Musty est toujours actif aujourd'hui et qu'il a fait plusieurs podiums, et dont son dernier en 2022, si je ne dis pas de bêtises, où il a fini 3e. Donc on a plusieurs joueurs tels que Musty qui sont assez anciens et qui sont là depuis pas mal d'années. Mais cette année, du coup, justement, ça va être une des premières années où on va avoir un petit peu moins d'anciens et aussi beaucoup plus de nouveaux joueurs qui commencent réellement à se faire un nom dans la scène de tournois française, voire internationale, où ils participent même à des gros, gros tournois internationaux. Et c'est là où on en vient au podium qui sera certainement très disputé cette année, dont parlait The Poon. Et évidemment, Musty n'est pas le seul nom qui est en contender. Hein. Si on regarde dans la tranche des joueurs qui sont le plus haut classés, on peut noter des joueurs comme Justman ou Sundur qui ont participé à de précédentes éditions de la Coupe du Monde. On aura l'occasion d'en reparler peut-être un petit peu plus tard, mais évidemment, chaque année, il y a aussi une Coupe du Monde sur Osu, une Osu World Cup, et chaque pays doit avoir une équipe composée de 8 joueurs. Et donc, on a aussi plusieurs noms qu'on va pouvoir reconnaître qui ont participé à ces dites Coupes du Monde, comme Ikil aussi, par exemple, qui est un petit peu plus bas dans les rangs, mais qui est aussi très constant comme joueur, qui sera certainement un des principaux adversaires de joueurs comme Musty cette année. Et on a aussi des joueurs qui sont encore plus récents, et qui se sont fait un nom sur les deux dernières années. L'exemple phare de cette année, c'est notamment FIAE, je pense, qui s'est vraiment, vraiment fait un nom sur la scène nationale et internationale en tant que joueur tournoi vraiment très constant et redoutable. Donc on tombe bien pour parler de ça, parce que ça va être une édition vraiment très intéressante cette année.
Bah, tu parlais qu'il y avait des anciens et des nouveaux joueurs qui arrivent, donc on voit que la scène Ouzou, elle monte de plus en plus, et je voulais savoir ce que vous pensez de la scène Ouzou en France actuellement.
Là, ça va être aussi peut-être à moi de répondre, je pense, Poun.
Oui, vas-y.
Mais la scène Ouzou en France, alors, je dirais qu'elle est... comment dire ? On a eu des périodes plus actives, avec plus de joueurs qui rentraient vraiment dans les tournois les plus élevés en termes de niveau. Et je parle de niveau international, hein, et c'est moins le cas cette année. Donc, on pourrait dire vraiment, sur un premier regard, que la scène est peut-être moins active qu'elle l'a été. Mais je pense que ça ne serait pas vraiment lui faire justice, parce que dans les tranches de rank un petit peu plus bas, on commence à avoir beaucoup de joueurs cette année, et même déjà un petit peu l'année dernière, qui commencent vraiment à s'affirmer dans les tournois qui sont pas forcément les plus regardés, mais qui sont tout de même notables et qui sont indicateurs d'un niveau croissant de la part de pas mal de nos joueurs. Et justement, certains d'entre eux sont inscrits au championnat de France cette année, donc ça va être intéressant à voir. Mais typiquement, on a des tournois qui se jouent dans des tranches de rank qui sont fixes. C'est-à-dire que là, par exemple, l'OFT, donc l'Osu French Tournament, est un tournoi qu'on appelle Open Rank, c'est-à-dire que des joueurs de n'importe quel rank peuvent s'inscrire dedans. C'est-à-dire que vous soyez rank top 100 ou que vous soyez rank top 10 millions, vous pouvez vous inscrire, il n'y a pas de souci. Après, les qualifications feront leur travail et feront que vous irez plus ou moins loin dans le tournoi. Et dans les tournois qui n'obéissent pas à ces règles-là, justement, et qui sont fixes dans un certain écart de rank, par exemple entre 1000 et 10 000, qui sont les tournois ce qu'on appelle 4 digits, donc pour les joueurs qui ont un rank à 4 chiffres, là on a eu plusieurs joueurs français qui se sont démarqués cette année. On peut citer des noms comme FIAE, que j'ai déjà cité tout à l'heure, mais aussi des joueurs comme MiceJD, par exemple, qui s'est vraiment fait un nom dans ces tournois-là. Et c'est ces joueurs-là qu'il faut vraiment regarder en France en ce moment, parce que c'est les prochains grands joueurs en fait de la scène compétitive.
Et tu parles de la 4 Digit World Cup, mais je pense qu'il faut aussi rendre un grand hommage à l'équipe de l'an dernier aussi, de la 5WC, donc oui, les joueurs à 5 chiffres, donc entre 10 000 et 100 000, qui eux ont même remporté le championnat du monde de cette division l'an dernier. Donc on a... Donc notre scène au top division 1 ne se développe plus vraiment actuellement, mais par contre, on a des joueurs qui émergent dans ces tranches inférieures qui font que d'ici quelques années, on a espoir qu'on redevienne un peu plus fort au top niveau.
Exactement.
Bah, surtout qu'en parallèle, en France, il y a de plus en plus d'événements Ouzou qui se développent grâce à votre association. Donc vous êtes présent à l'UTT Arena, vous avez fait la Gamers Assembly là cette année. Comment avez-vous ressenti ces deux tournois-là, justement ?
Alors déjà, on peut parler... il faut mettre ça dans le contexte de la croissance du jeu aussi. Avec le Covid, Ouzou a connu des très gros pics de fréquentation, comme énormément de jeux vidéo. Mais c'est aussi redescendu depuis, comme toute la scène e-sport. Et on est stabilisé autour des chiffres pré-Covid, en termes de fréquentation, de viewers sur Twitch, etc. En ce qui concerne la France... On voit un peu moins on voit un peu moins l'effet post-Covid, notamment, je pense, grâce aux activités de l'association et au fait qu'on est présent dans de plus en plus d'événements. C'est-à-dire qu'avant le Covid, on était présent seulement à l'UTT Arena depuis 2018, mais on est aussi présent maintenant à la Gamers Assembly depuis 2023 et cette année au Play Sorbonne Festival. Ce qui fait qu'on gagne, enfin surtout depuis la Gamers Assembly quand même, on est passé sur la grande scène, à la télévision, etc. On gagne de plus en plus de visibilité et la scène reste hyper, hyper active et stimulée en France.
Puis il y a aussi tout à côté là, tous les tournois en ligne. On a parlé notamment du Ouzou French Tournament. Donc il lui se passe entièrement en ligne.
Oui, lui il reste entièrement en ligne. Il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier sur Ouzou, c'est que l'aspect aim est extrêmement prépondérant et la plupart des joueurs utilisent une tablette graphique. Et quand tu vas en LAN, alors ça ne s'applique pas à tout le monde, mais souvent quand on va en LAN, on s'attend à avoir un niveau un peu inférieur, surtout au niveau de l'aim, parce que en fait, vous l'aurez. Enfin, c'est quelque chose, c'est un constat que vous pouvez faire dans la vie de tous les jours, si vous dessinez ou même si vous écrivez, en fonction de votre position, de la hauteur de votre bureau, de votre chaise, si vous avez un accoudoir, etc., vous allez être plus ou moins à l'aise. Et c'est ce genre de facteur qui se répercute à 100% sur l'aim à la tablette graphique sur Ozu. Donc du coup, il y a pas mal de joueurs qui n'ont pas forcément la capacité de s'adapter en LAN, et puis il y a d'autres facteurs, bien sûr. Donc ça fait que on a le top niveau, il est vraiment chez soi à la maison.
Oui, c'est sûr, mais après, il y a ce qui est différent, c'est aussi de jouer devant un public. Hein.
Ouais, c'est sûr, il y en a certains qui n'arrivent pas du tout aussi à jouer devant un public. Ouais. Il y en a pas mal. Surtout, il y a une certaine tranche de joueurs dans tous les jeux, et Ozu n'y fait pas exception, où le jeu vidéo est un refuge pour la vie réelle. Et ils ont pas forcément cette aisance à mêler les deux.
Ça, et puis aussi, les joueurs tournois ont chacun leur mental, chacun leur caractère, et il y en a qui s'accommodent beaucoup mieux au fait de jouer devant un public, ou de simplement jouer avec plus de pression que d'habitude. Il y a des joueurs qui vont vraiment être...
Il y en a, ça les booste, hein.
C'est ça, il y en a, ça les booste carrément, et on voit des super performances. Il y en a d'autres où on voit clairement qu'ils sont à leur top quand ils sont vraiment chez eux, dans leur zone de confort, et que dès qu'ils sortent de là, ils commencent un petit peu plus à pêcher. Mais c'est là que le fait d'avoir des LAN est aussi intéressant, c'est qu'on n'a pas toujours les mêmes spectacles qu'on pourrait avoir dans les tournois en ligne, tout simplement.
Ouais, et l'exemple de ça, on peut en reparler à nouveau de lui, c'est Musty, qui lui, il a beau avoir fait 9 podiums à l'OFT, il n'en a pas remporté une depuis 2014, mais pour autant, il arrive à se hisser au top du niveau en LAN, puisqu'il a remporté l'UTT Arena 2018, il a fait finaliste à l'UTT Arena 3 années de suite, et il a remporté la Gamers Assembly 2023. C'est un joueur qui arrive parfaitement à s'adapter de par son expérience, sa maturité. Et on en a d'autres comme ça, comme Flastek, qui a repris un élan de motivation grâce à la Gamers Assembly 2024. Mais on en a aussi d'autres comme Ekoro, qui sont pas du tout à l'aise à jouer en public et qui refusent même de participer. Et ça, oui, se comprend. Chacun voit le jeu à sa façon et contribue aussi à la scène de sa façon.
Maintenant, place à la première pause musicale. Le morceau If We Don't Talk Again, Remember I Loved You de Naked Automata. De retour sur Studio ZEF, nous sommes toujours dans le quart d'heure e-sport dédié à l'Ouzou French Tournament. Tout à l'heure avec The Poon et Subaru Arima, on a parlé de ce qu'est l'association Ouzou FR Live. Je vais poursuivre cette émission avec la seconde partie de l'interview.
Par contre, pour revenir sur Ekoro, si on se penche sur sa carrière en tournoi en ligne, c'est certainement un des joueurs des Français qui a eu le palmarès le plus impressionnant, toujours français confondu. Comme quoi, jouer en LAN peut vraiment avoir un effet différent sur chacun.
Ouais,
c'est sûr. Après, ce que je me disais aussi, le fait que ce soit en LAN, ça permet aussi de faire connaître davantage le jeu aussi.
Absolument, c'est ce à quoi on travaille avec chaque événement. On est un des seuls tournois, petits tournois, à la Gamers Assembly à être doté d'un espace spectateur. C'est-à-dire qu'on a une armée de bénévoles dédiés spécifiquement à la présentation du tournoi au public, à sa retransmission aussi bien dans cet espace spectateur qu'on anime à toute heure, mais aussi sur Internet. Et quand on passe sur les grandes scènes de ces événements, chaque année l'UTT Arena, parfois la Gamers Assembly, on se démarque en jouant du contenu qu'on propose. C'est-à-dire qu'on a une super ambiance avec les musiques qu'on propose, et on arrive parfois à jouer avec des jeux de lumière, etc., et avec le show que font les joueurs sur ces musiques. Et ça fait qu'on essaye toujours de proposer un aspect vraiment galvanisant pour tout le monde, et on a à chaque fois une centaine de spectateurs devant la scène.
Ouais, ça, et puis Poon, tu pourras me corriger si je me trompe, parce que je n'étais pas présent à l'édition 2023, mais à l'édition 2024, je ne sais pas si c'était une nouveauté, mais on avait aussi des PC mis à disposition où il y avait Ouzou pour que.
Non, c'était aussi en 2023.
C'était aussi en 2023. Donc, du coup, ouais. à la GA, on a pu avoir des PC qui étaient installés pour que des gens qui ne connaissent pas forcément Ouzou puissent essayer le jeu, en plus de pouvoir voir les matchs se jouer. C'est aussi vachement intéressant. Il y a un vrai côté interactif de pouvoir vraiment montrer les bases du jeu à des gens qui ne connaissent pas du tout la scène. Et je trouvais que c'était assez bien réussi, ça aussi.
C'est ça, et on essaye de proposer aussi du bon matériel sur ces setups avec des tablettes graphiques, ce qui permet à certains d'essayer ce style de jeu vraiment, vraiment atypique à premier abord, et aussi des claviers mécaniques de bonne qualité, etc. Parce qu'il y a vraiment une vaste différence entre appuyer en rythme sur un clavier de PC portable ou un clavier de bureau basique et un clavier mécanique. Le fait de ressentir le ressort du clavier, ça peut aider nombre de joueurs à s'approprier le rythme.
Ah, ça, tout à fait. Et puis d'ailleurs, dans l'histoire du jeu, on a toujours vu des top players pousser plus loin les limites de l'optimisation du matériel à chaque fois, hein, en cherchant toujours à être meilleur.
Il y a des optimisations partout.
Exactement.
C'est sûr. Et puis ça, je me dis, le plus important, c'est que chacun ait sa propre façon de jouer aussi, et j'ai déjà vu quelques parties de Ouzou, ça va très très vite. Enfin, je suis souvent impressionné par les joueurs quand ils doivent atteindre l'objectif, enfin, comment expliquer ça, mais le fait que d'arriver à suivre la musique tout en exécutant le... Ah, j'arrive pas à trouver le mot, c'est...
Le rythme.
Le rythme, voilà.
Bah, c'est un jeu déjà qui pousse les limites extrêmement loin, mais aussi... C'est un jeu qui propose des profils de joueurs vraiment extrêmement individualisés. C'est-à-dire que quasiment aucun joueur a le même profil. Ils peuvent avoir des points communs. Par exemple, ils peuvent être meilleurs en vitesse, ou meilleurs en aim, en visée, ou meilleurs en reading, donc juste la lecture de la musique. Chacun a vraiment des forces différentes. Et même les meilleurs joueurs du monde, Emrek par exemple, pour ne citer que lui, il n'est pas capable de faire... les scores que n'importe quel score, il a toujours des faiblesses quelque part. Il n'y a aucun joueur qui peut être absolument bon partout, remporter absolument tous les tournois, figurer en haut de absolument tous les classements. Et c'est ce qui fait que la Ouzou World Cup est intéressante, parce que contrairement à des e-sports plus mainstream, on fonctionne en fait comme les Coupes du Monde de football ou de rugby, ou les Jeux Olympiques par exemple, en fait, où on n'a pas des clubs, mais des équipes par pays. Et ça fait qu'on a des pays avec qui n'ont pas forcément les top players au top du top, mais ils ont les équipes les plus polyvalentes, avec les profils les plus adaptés et mis ensemble, qui sont capables de faire les meilleurs scores en moyenne. Et ce qui fait qu'ils prennent la supériorité sur le match. En fait, ça a beau être des matchs qui se jouent... En fait, quand tu joues en multi, t'as presque l'impression de jouer en solo, en fait. Parce que le fait que ton ennemi ou ton coéquipier touche les notes, ça ne change rien. Toi, tu vas toujours jouer la même musique, les mêmes notes, dans la même apparence, etc. Mais c'est la composition de l'équipe et les forces et les faiblesses de chacun qui font les matchs.
Ouais, d'ailleurs, j'ajouterais qu'en ce moment, la scène mondiale est particulièrement intéressante parce que Poon, par exemple, nous parlait d'Emrek, qui est le joueur numéro un mondial actuellement au classement.
Depuis
Et qui
plusieurs
est...
années.
C'est ça, c'est un des joueurs les plus terrifiants, que ce soit en solo ou en tournoi, c'est un monstre absolu. Mais comme il l'a souligné, personne n'est parfait à 100% sur tous les skill sets, ça n'existe pas. Mais justement, ce qui en devient impressionnant, c'est quand certains joueurs en tournoi arrivent à obtenir une polyvalence vraiment très très impressionnante, c'est-à-dire qu'ils arrivent quand même à dominer un certain nombre de skill sets qui leur permet de triompher contre des joueurs qui eux-mêmes sont déjà très forts. Et là où la scène mondiale est particulièrement fascinante en ce moment, c'est que cette année et l'année dernière déjà un petit peu, il se dessinait une sorte de top 4 avec 4 joueurs qui étaient vraiment au-dessus du lot. Et donc il y a Emrek, dont on a déjà parlé, il y a Malicheski, il y a Warstacher Player et il y a Henry. Et ces 4-là, en fait, ils ont des skill sets complètement différents. Ils ont des manières de jouer complètement différentes. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que ça montre qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'arriver au top, quoi.
Après, je me dis, il doit y avoir autant de façons de jouer que de joueurs.
Exact.
Ouais, tout à fait. Il y a, comme on l'a dit, des ressemblances, mais chacun a son confort, chacun a ses skill sets préférés, chacun a sa manière de jouer et son matériel pour jouer. Il y en a certains qui jouent stylet, d'autres qui jouent souris. Il y en a même qui jouent à la tablette directement en tapant sur le touchscreen. Donc il y a autant de manières de jouer que de joueurs, tout à fait.
Bah, du coup, là, on parlait de Lousou, Warcap. Là, de ce que je. Enfin, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas un mode de Ouzou, c'est qu'il y en a 4 ou 5. Hein.
C'est ça. Alors, il y en a 4, du coup. Ouzou, dont on parle depuis tout à l'heure. Il y a Ouzou Taiko. C'est un mode de jeu qu'on va notamment avoir à la Sorbonne cette année. Il y a Ouzou Catch, où c'est un mode de jeu où on doit attraper les fruits, en fait. Il y a des fruits qui tombent à l'écran et le but, c'est de tous les ramasser dans un saladier. En rythme, toujours. Et on a Ouzou Mania. C'est le mode piano, tout simplement. Je sais pas, je pense que c'est ce qui parlera le plus aux gens. Ça ressemble par exemple à Guitar Hero ou à d'autres jeux d'arcade qu'on voit pas forcément trop en Europe, mais par exemple SDVX ou Beatmania. Et Ouzou Mania, il y a deux principales manières de jouer. Il y a des musiques à 4 colonnes et des musiques à 7 colonnes. Et c'est deux catégories vraiment distinctes avec des skill sets différents. C'est-à-dire que en Mania, comme il y a 4 colonnes, les colonnes vont souvent être plus denses et donc ça va demander plus de vitesse. Alors qu'en 7K, c'est plus axé sur la technique. Et ça fait du coup que entre ces deux catégories, 4K et 7K, du coup, 4 touches et 7 touches, on a vraiment deux méta différentes et du coup des joueurs totalement différents. Et du coup, ce mode de jeu a la particularité d'être considéré comme deux modes de jeu différents en fait. Ce qui fait que du coup, on n'a pas 4 championnats de France et championnats du monde, mais 5.
Parce que là, je me disais, du coup, l'Ozu French Tournament, c'est que sur Ozu, on va dire le mode principal, ou c'est sur l'ensemble des différents modes que propose le jeu?
Alors, Ozu French Tournament, du coup, c'est spécifiquement sur Ozu, mais on organise un French Tournament par mode de jeu. Tout au long de l'année, on a donc 5 French Tournaments.
D'accord.
Avant, et on organise chaque French Tournament avant chaque World Cup, et c'est le tournoi qui est utilisé comme quasi-référence pour ensuite faire la sélection des joueurs à chaque fois dans l'équipe nationale.
Ça marche. Donc là, on vient de parler de l'Ouzou French Tournament, là, dont les phases de qualification ont lieu en ce moment, et qui se termine donc le 13 octobre prochain en ligne. À quoi pouvons-nous nous attendre pour cette nouvelle édition?
Voilà, je vais pouvoir peut-être prendre la parole un petit
Oui,
peu là.
vas-y.
Bah du coup, comme on l'a un petit peu abordé tout à l'heure, c'est vraiment une année, on va dire, de transition entre certains anciens qui se réinscrivent plus ou alors qui sont moins actifs et du coup qui vont peut-être avoir un résultat moins attendu que les années précédentes. Et comme on l'a dit tout à l'heure, d'autres nouveaux aussi qui sont vraiment sur la phase montante. Donc je pense qu'en termes de nos attentes, on peut vraiment s'attendre à un tournoi extrêmement disputé avec beaucoup de matchs serrés. Et beaucoup de rebondissements aussi, parce que on l'a pas expliqué forcément tout à l'heure, mais au fur et à mesure de l'avancée du tournoi, les map pools, donc c'est-à-dire les sets de chansons qui seront jouées à chaque semaine, deviennent plus difficiles. Et donc il y a plusieurs profils de joueurs, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont pas encore très très bons sur les maps vraiment très difficiles qui vont être jouées en fin de tournoi. Et par contre, ils sont suffisamment constants et expérimentés pour pouvoir vraiment se choper un bon classement sur les map pools de qualification qui sont plus simples. Et du coup, ça peut créer des situations dans le bracket, donc dans le tableau, où on a deux joueurs très forts qui se rencontrent dès le début, parce qu'il y en a un tout simplement qui est très fort et très constant dans les premières phases du tournoi, et l'autre qui de toute façon est très fort, mais qui sera plus à se démarquer dans les phases plus tardives du tournoi. Et c'est là où on va avoir des matchs très intéressants avec des profils qui s'entrechoquent un petit peu. Et ça va vraiment être intéressant. Et en tant que commentateur, mais aussi analyste de la scène française, je dois dire que c'est potentiellement, depuis que je suis la scène compétitive, l'année la plus difficile à prédire en termes de résultats.
Bah, c'est là où c'est le plus intéressant.
Oui, tout à fait. Et je suis vraiment enthousiaste pour cette édition et j'ai vraiment hâte que ça commence parce que ça va être banger du début à la fin. On va avoir beaucoup de matchs serrés. Et on peut avoir quand même quelques joueurs dont j'ai mentionné les noms tout à l'heure qui se profilent comme les favoris, entre guillemets, mais ça va vraiment être difficile à prédire. J'avais mentionné Fiyae tout à l'heure qui est vraiment un des nouveaux joueurs sur la phase montante. On a certains des joueurs expérimentés comme Justman ou Musty ou Iskill qui sont toujours là, casser des bouches sur les mapoules et à vraiment sortir des scores très très impressionnants. Mais à voir s'ils arriveront à s'en sortir contre des joueurs un petit peu plus bas en rank mais qui sont très constants. Comme j'avais mentionné, il y a Mize par exemple, mais on peut aussi mentionner des joueurs comme Charles Lee qui font des résultats très impressionnants et très constants sur les tournois français. Puisque Charles Lee, en effet, il a fini 3e à la dernière édition du championnat de France l'année dernière, mais il a aussi fini 3e à la Gamers Assembly cette année, donc c'est vraiment quelqu'un qui est très constant et qui est très dangereux. Donc voilà, ça va être très disputé.
Exact. Et il y a pas mal de variables qui rentrent en jeu. Il faut savoir, en tout cas, c'est quelque chose de mon expérience personnelle, que même la condition physique, alors que c'est un jeu vidéo bien sûr, mais c'est extrêmement exigeant, pas moins que sur les autres jeux, peut-être plus diront certains, et il faut avoir une condition mentale et physique au top également. Et certains sont plus ou moins prévisibles là-dessus, ce qui n'arrange pas nos prédictions.
Ouais, tout à fait. Il y en a qui ont vraiment tendance à adopter un profil un peu tout ou rien, ou d'un match à l'autre, ils vont sortir des performances vraiment complètement disparates. Donc ça rend la prédiction, comme l'a dit Poon, encore plus difficile.
Ouais, parce que comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est un jeu qui, on a beau jouer en multijoueur, ça reste des performances extrêmement individualisées. Parce qu'en fait, contrairement à des jeux traditionnels, qu'on voit d'habitude en e-sport comme CSGO, Valorant ou des MOBA comme League of Legends où c'est des jeux 100% en équipe où tout le monde joue sur le même terrain, là sur Ozu, sur chaque musique, chaque joueur joue sur son propre terrain contre lui-même en fait, contre ses propres scores, contre ses propres attentes en plus des scores de ses adversaires. Et il faut faire très attention à avoir les bonnes attentes de soi-même et en même temps bien évaluer les performances de l'adversaire dans ses choix stratégiques, parce que entre chaque musique, en fait, les adversaires choisissent la prochaine musique ou les musiques à bannir, etc. Il y a aussi un grand aspect stratégie.
Et un autre côté intéressant qu'on n'a pas encore abordé mais qui revient un petit peu sur le mental qu'abordait The Poon, c'est que entre chaque tour du tournoi, donc entre chaque nouveau map pool, donc set de chansons qui sera joué, il se passe une semaine, donc les joueurs ont une semaine pour s'entraîner, découvrir les maps et vraiment décider sur lesquels ils voudront vraiment s'orienter dans leur pick et lesquels ils voudront éviter à tout prix contre leurs adversaires. Et même là-dessus, il y a plusieurs profils de joueurs, c'est-à-dire qu'il y en a qui, pour vraiment se sentir à l'aise pendant un match, ils vont s'entraîner à fond, ils vont saigner le map pool, ils vont vraiment prendre le truc au sérieux en termes d'entraînement et se faire tout le map pool de long en large en travers. Et il y en a d'autres qui vont vraiment le regarder peut-être une heure avant le match et qui ont vraiment besoin de se sentir décontractés et de ne pas avoir 50 scores dans la tête pour vraiment se sentir à l'aise et performer au max. Et au contraire, ceux qui s'entraînent vraiment à fond, ils font ça pour vraiment se construire une confiance sur les maps. Mais là où ça devient plus compliqué, c'est que plusieurs fois, on a vu des joueurs qui s'étaient vraiment entraînés sur le map pool, qui avaient vraiment beaucoup, beaucoup de scores en locaux. Sur une map, ils vont sortir un score pendant le match qui est largement en dessous de ce qu'ils avaient fait pendant leur entraînement. Et là, ça commence à faire douter le joueur et il commence à être moins sûr de lui. Et c'est là que la faille se crée. Donc, on a vraiment plusieurs profils de mental différents là-dessus aussi.
Ouais. Et chaque joueur adapte du coup cette stratégie d'entraînement en fonction du tournoi, de la difficulté du map pool, des adversaires. Et il n'y a pas de meilleure stratégie en fait. Même pour chacun, il y a toujours un degré d'adaptation en fonction du contexte.
Donc là, vous avez parlé là, depuis tout à l'heure de map pool et je voulais savoir comment étaient choisies les musiques dans Ozu. Est-ce que c'est les organisateurs des tournois qui choisissent les morceaux ou est-ce que c'est le joueur lui-même qui choisit le morceau et qui essaye de dépasser le score qu'il a fait précédemment?
Maintenant, place à la seconde pause musicale, le morceau Absence de Blob Dash. De retour sur Studio ZEF, nous sommes toujours dans le quart d'heure e-sport dédié à l'Ozu French Tournament. Tout à l'heure avec The Poon et Subaru Arima, on a parlé de l'Ozu French Tournament, le championnat de France sur Ozu. Je vais poursuivre cette émission avec la suite et fin de l'interview.
Tu veux y aller Subaru ? T'as moins parlé que moi.
Bon, effectivement, on peut parler un petit peu des différents styles de musique qui se choisissent dans les mapools par exemple. Donc, il faut savoir, un des concepts de base des tournois Ozu, et que ce soit français ou internationaux, c'est respecté dans les deux côtés, c'est que dans un map pool, on va avoir des différents critères à respecter et différents styles de map à avoir. C'est-à-dire que, pour faire très simple, on parlait un petit peu des skillsets tout à l'heure, de joueurs qui sont plus forts en aim, donc en visée, d'autres qui sont plus forts en tapping. Ce qu'on appelle le tapping, c'est ce qui va se faire au clavier, donc des maps qui vont être très très rapides au clavier, mais avec un mouvement de curseur plus fluide. Et bah, forcément les styles musicaux vont s'adapter avec ça, c'est-à-dire que par exemple dans ce qu'on appelle les maps stream, donc c'est-à-dire les maps où c'est vraiment la main au clavier qui va travailler beaucoup avec beaucoup d'endurance, tandis que les mouvements du curseur seront plus fluides et vont simplement suivre le flow des streams, on préférera souvent des artistes de métal par exemple avec typiquement des gros solos de guitare qui vont bien aller avec le patterning qui s'apparente au stream. Et ce ne sera pas du tout le cas forcément dans des maps qui se reposent beaucoup plus sur la visée, sur l'aim, où c'est vraiment le curseur qui va bouger dans tous les sens, et la main sur le clavier au niveau tapping qui sera relativement calme par rapport au curseur. Et là, j'ai expliqué que deux skillsets vraiment de base du jeu, mais dans un map pool, il y a plein de styles de maps différentes. Il y a, comme Poon l'a dit tout à l'heure, tout ce qu'on appelle le reading, donc c'est la lecture, c'est-à-dire une map qui va être particulièrement dense et difficile à lire. On a à l'inverse des maps qui sont vraiment ce qu'on appelle les maps précision, où les cercles seront tout petits, et donc c'est vraiment la visée qui est testée, mais pas de la même manière. Et à chaque style de map correspond à un style de musique, et donc on peut avoir une grosse variété de styles de musique dans un map pool. On peut avoir du métal, de l'électro, des nightcore, des musiques beaucoup plus calmes aussi pour le reading, donc c'est vraiment très très varié.
On peut avoir de la K-pop.
Ouais.
De la hip-hop, du rap. En fait, ça... Il peut y avoir des choses très extravagantes parfois.
Ouais, exactement.
Il y a un peu de tout, franchement. On a même dans certains French Tournament, on a certains de nos sélectionneurs de maps qui choisissent carrément de créer des maps. Donc, ils vont placer des notes sur des musiques, sur de la chanson française, tout simplement. Ça arrive. Il y a des musiques qui s'y prêtent étrangement bien.
Et alors, pour faire un petit aparté là-dessus aussi, ce qui s'est démocratisé un petit peu ces deux dernières années, peut-être même trois dernières années maintenant, dans les Coupes du Monde et autres tournois vraiment majeurs à l'international, c'est ce qu'on appelle les custom songs. Et donc, ce sont tout simplement des maps qui sont créées pour l'occasion, mais également des chansons qui sont composées pour l'occasion du tournoi par des artistes qui sont liés à Ozu directement.
Exact. Et du coup, les map pools, ils sont créés par les organisateurs des tournois. Et ils sont à chaque fois annoncés une semaine avant les matchs. C'est-à-dire qu'on va avoir un week-end de match. À la fin du week-end de match, les maps, les musiques de la prochaine semaine est annoncée à ce moment-là. Et donc ça laisse une semaine à chaque joueur pour s'entraîner sur une sélection de entre 15 et 20 maps en général. Donc tout extrêmement varié. C'est assez bien encadré en vrai. Enfin, il n'y a pas de critères officiels, mais disons que il y a des normes qui se sont installées au fil du temps, avec un certain nombre de maps à respecter dans chaque catégorie pour exploiter chaque skill set.
Oui. Et là, c'est dans un format tournoi, on va dire classique, mais il faut savoir que dans certains cas, relativement plus rares, mais toutefois assez récurrents, notamment ces dernières années, on a eu de plus en plus de tournois qui se basent là-dessus, c'est qu'on peut avoir des tournois qui sont basés sur un ou deux styles de maps particuliers. Et des tournois qui sont par exemple entièrement centrés sur l'aim. Vraiment, ça va être que des maps qui vont tester à fond la visée et donc tout ce qu'on appelle les jumps communément, c'est-à-dire vraiment les maps qui vont faire bouger le curseur dans tous les sens très rapidement. Et on peut avoir des maps comme ça. Cette année, on a aussi eu un tournoi qui s'appelait l'ESA, donc qui était un tournoi qui testait ce qu'on appelle la speed. Tout l'inverse, c'est-à-dire des maps qui testent la vitesse de tapping. Et ça, c'est dans des tournois qui sont un petit peu plus focus sur un seul skill set. Mais la majorité des tournois aujourd'hui adoptent le format, on va dire, plus ou moins classique que The Poon a décrit, où vraiment les map pools doivent respecter une certaine norme et un certain équilibre.
Bah, en sens qu'il y en est pour tous les goûts aussi.
Un petit peu, ouais, c'est ça. C'est l'idée, totalement. Ouais. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les différents profils de joueurs. C'est-à-dire que dans les matchs, on va avoir des joueurs qui vont beaucoup plus s'illustrer sur certains types de skill sets, tandis que d'autres vont préférer d'autres types de maps.
Et ça va guider leur choix. Parce que du coup, à chaque match, on a trois phases de draft. Au tout début, on a les joueurs qui vont annoncer leur protect. Donc, c'est des maps, c'est des musiques qui vont empêcher leur adversaire de bannir. Justement, après ça, on a les bans. Donc, du coup, les joueurs vont pouvoir sélectionner des maps qu'ils vont interdire de pick, à condition qu'elles n'aient pas été protect juste avant par leur adversaire. Et ensuite, tour à tour, les joueurs vont choisir une map, jusqu'à ce qu'ils arrivent à 5-0, par exemple.
Ça marche. Et du coup, là, pour le map pool, par exemple, si un joueur choisit une map, il le donne à son adversaire, la map.
Donc, tous les matchs sur Ozu, c'est une petite particularité du jeu, il y a dans tous les matchs un arbitre, tout le temps. Et c'est lui, à chaque fois, qui demande au joueur les picks, et c'est ensuite le joueur l'annonce, et puis l'arbitre va sélectionner la map et la faire jouer au joueur. Tout est toujours géré par un arbitre et c'est dans le chat, directement dans le chat multijoueur du jeu. Donc chaque joueur voit tous les échanges de chaque joueur et l'arbitre.
Bah du coup, c'était en aparté de cette interview, on a parlé de la question des droits d'auteur et je sais que sur Ozu notamment, il y a tout un tas de musiques différentes. Donc est-ce que vous pouvez en dire un peu plus par rapport à tout ce qui est lié aux droits d'auteur sur Ozu?
Ouais. Ça va plus être The Poon, je pense, là.
Ouais. Donc, moi, je suis employé par le jeu depuis 2020. Ça n'a rien à voir. C'est pour gérer l'infrastructure du jeu. Mais du coup, je peux aussi voir ça, cet aspect-là de l'intérieur. Déjà, le jeu, légalement, il se repose sur les exceptions des hébergeurs. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quelle plateforme, YouTube par exemple, vous pouvez en soi mettre en ligne n'importe quelle musique sur YouTube. Bon, ça a changé depuis bien sûr l'introduction de Content ID, etc. Mais pensez qu'il n'y a pas Content ID. Bah, juste, vous uploadez votre vidéo, il y a une musique dedans, et ben c'est comme ça. Et en fait, si vous lisez les conditions d'utilisation de YouTube, c'est écrit noir sur blanc, on ne peut plus clair. Tout ce que vous mettez en ligne sur la plateforme, vous en prenez la responsabilité en termes de droits d'auteur. Et ça s'appuie sur une loi américaine qui s'appelle le DMCA, qui donc octroie ces exceptions aux hébergeurs, donc ils peuvent héberger des contenus copyrightés, à la condition qu'ils répondent toujours favorablement aux demandes des ayants droit pour faire supprimer le contenu. Et ça, quand ça arrive, ensuite, l'utilisateur qui a mis en ligne le contenu est sanctionné, notamment déjà par le retrait du contenu, mais ils peuvent aussi perdre des fonctionnalités sur la plateforme. Sur YouTube, c'est ce qu'on appelle les strikes. Et bien sûr, Ozu, ça fonctionne vraiment exactement de la même manière. Ça s'applique aux musiques, mais ça s'applique aussi à tous les éléments qui permettent d'illustrer une map. Donc, par exemple, les backgrounds ou les effets sonores qu'on peut entendre quand on appuie sur une touche. Ça va jusque-là. Il peut même y avoir des conflits de droits d'auteur entre mappeurs, c'est déjà arrivé. Des mappeurs qui s'approprient une map, par exemple, qui juste la met en ligne en modifiant une seule chose. Et ben, le mappeur original a également les droits là-dessus et peut demander la suppression. Et donc, ça fonctionne comme n'importe quelle plateforme en réalité. Maintenant, c'est quand même pas forcément très équitable envers les artistes de laisser les joueurs faire sans les rétribuer, bien sûr. C'est pour ça que depuis quasiment une dizaine d'années, Ozu a les fonds nécessaires pour quand même obtenir les licences de milliers de musiques. Et je crois qu'on a environ 4000 musiques licenciées. J'ai pas fait le compte avant l'interview, mais on est à au moins 3000, il me semble. 3000 musiques pour lesquelles on a acheté les droits et qui donc du coup peuvent être mappés et utilisés librement sur Ozu. Et en plus de ça, comme l'a dit Subaru, on commande aussi expressément des musiques aux artistes. Donc pour évidemment ça coûte beaucoup plus cher. Mais voilà, on commande des musiques directement pour qu'elles soient exploitées sur Ozu. On essaye de rendre tout ça aux artistes. Tous les fonds qu'on a en trop, parce que Ozu n'est pas une entreprise focalisé sur le profit, c'est-à-dire que tous les fonds qu'on engrange, on s'en sert pour payer, enfin pour subvenir à tous les coûts de notre plateforme, bien sûr, et payer les développeurs. Mais tout le reste, c'est des fonds qui sont alloués à l'achat de licences.
Ah, parce que je me suis dit, je pensais aux jeux de rythme musical qui sont régulièrement confrontés à ces questions de droits d'auteur et ouais. Et je me disais, est-ce que Ozu avait une règle un peu particulière par rapport aux autres, mais je vois que c'est comme YouTube ou comme Twitch.
En fait, c'est totalement différent parce que la plupart des autres jeux de rythme auxquels on pense, comme par exemple, j'ai cité tout à l'heure Guitar Hero, mais il y en a plein d'autres, ou Just Dance, dont on parlait tout à l'heure, c'est des niveaux sur des musiques qui sont choisies par l'éditeur, ensuite créées par l'éditeur, mises en ligne et en vente par l'éditeur, etc. Nous, le jeu est entièrement gratuit, sinon cette exception de droit d'auteur ne s'appliquerait peut-être pas. Et en plus de ça, il est interdit de rendre une map payante sur Ozu. Donc absolument tout est libre, et en fait on ne fait pas de profit, absolument aucun profit sur le contenu en lui-même. Tout le jeu, tous les revenus du jeu, c'est des donations. Il n'y a même pas de publicité, c'est entièrement des donations. En fait, on peut s'octroyer le Ozu Supporter pour 4$ par mois ou 26$ par an, ou peut-être 28, non c'est 26. Donc si on prend à l'année, ça coûte à peine 2$ par mois, et on a quelques petits avantages pratiques comme le fait de pouvoir directement télécharger les musiques depuis le jeu. Mais voilà, c'est uniquement des donations.
Ça marche, ça marche. Et du coup, on va revenir. On avait parlé en tout début de cette interview de l'UTT Arena, donc vous serez encore présent pour une nouvelle édition qui aura lieu en décembre prochain de mémoire. Et à quoi pouvons-nous nous attendre pour cette nouvelle édition ?
Alors, cette nouvelle édition, elle aura toujours lieu à Troyes. Le 6, 7 et 8 décembre au gymnase de l'Université de Technologie de Troyes. On peut s'attendre à nouveau à 64 places pour les deux tournois Ozu, qui seront sûrement Ozu et Ozu Mania 4K. Là, on est actuellement pleinement plongé dans la Sorbonne, donc c'est pas des choses qu'on a établies à 100%, et on a même une enquête d'intérêt qui est en cours. On fait ça en amont de chaque événement physique. On envoie à notre communauté un Google Form, tout simplement, à remplir pour connaître leurs attentes. Mais on s'attend à 48 places pour le tournoi Ozu et 16 places pour le tournoi Mania. Et le tournoi Ozu à l'UTT Arena, il a la particularité d'être joué en 2v2, contrairement à tous les autres tournois qu'on organise qui sont joués en 1v1. Et cet aspect duo en physique, elle est exceptionnelle. Parce que c'est le seul tournoi où tu peux ne serait-ce que check ton adversaire entre toutes les maps. C'est vraiment le tournoi en LAN emblématique de la scène depuis 2018 où il y a une ambiance de dingue.
Ouais, et puis on peut faire un aparté là-dessus sur le format de V2, mais on a vraiment eu des duos qui nous ont fait rêver, notamment l'année dernière, qui était du coup moi personnellement ma première LAN et donc ma première participation en tant que commentateur à l'UTT. On a eu un duo qui a vraiment surpris un petit peu tout le monde, parce que c'est pas vraiment le duo qu'on attendait comme favori pour le podium ou la première place. C'était les deux joueurs FIAE dont j'ai déjà parlé et son partenaire Biroche pour ce tournoi. Et ces deux-là, ils ont vraiment montré une synergie absolument incroyable, et ils ont réussi à sortir du winner's bracket et même du tournoi plusieurs équipes qu'on voyait comme largement dessus dans les prédictions, et ils ont fait une performance de malade, et ils avaient, comme je l'ai dit, une synergie, ils avaient un jeu d'équipe, une entente qu'on avait vraiment rarement vu à ce point là et c'était un super beau spectacle.
C'est clair, les deux ont des personnalités, ils collent très bien ensemble,
hein. Ah, clairement,
ça se voyait, ils avaient une synergie que quasiment aucune autre équipe avait, et c'est ce qui les a menés à se défaire des plus gros duos comme Musty et Araki en arrachant la victoire au tiebreaker, ainsi contre Tuya et Vroom Savavit. Il leur a fallu on sentait en les voyant jouer que c'était cette force de ce duo en particulier qui les a menés aussi loin, et c'était vraiment un parcours exceptionnel et très passionnant à suivre.
Bah du coup, et enfin, je vais vous laisser le mot de la fin.
On va dire un mot chacun, je te laisse commencer Dopoun.
Eh bien écoutez, déjà merci Sarah pour cette invitation. C'est la première fois qu'on fait une interview à la radio. On vous attend nombreux ce soir sur la chaîne Twitch. Ce sera sûrement à 21h30 pour la révélation des qualifiés et les musiques de la semaine prochaine. Donc si vous ne connaissez pas le jeu, vous verrez à ce moment-là à quoi ça ressemble et à quoi les joueurs vont s'attendre pour la semaine prochaine, la première semaine de l'arbre. J'espère que on va avoir de nouvelles personnalités sur le podium cette année, c'est très prometteur. Et on attend avec impatience l'événement à la Sorbonne aussi. Si vous êtes en région parisienne, ça ne coûte rien de venir et découvrir et interagir avec cette communauté extrêmement soudée qu'on a en France.
Bah, je vais dire un petit mot aussi, donc Sarah, je te remercie également pour l'invitation, ça fait vraiment très plaisir, et du coup c'était également ma première expérience avec une émission radio comme ça, et ça fait vraiment super plaisir, et j'espère que ce sera l'occasion de propager encore un petit peu plus cette passion qu'on partage quand on travaille sur ces événements-là. Moi personnellement, du coup, ça fait un petit peu plus de 2 ans maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, que je commente de manière assez assidue, et c'est vraiment quelque chose que je prends très à cœur, et il n'y a rien de plus gratifiant que d'entendre et de voir des gens qui sont présents et qui disent qu'ils aiment regarder les matchs et qu'ils aiment les commentaries, et c'est cette transmission de la passion qu'on a pour le jeu qui compte vraiment pour moi, et donc je suis très content de pouvoir y participer encore aujourd'hui avec ce genre d'émission.
Merci à vous.
Merci.
Merci.
Pour compléter l'interview, retrouvez toutes les informations de l'association Ozo et Fair Live sur leur site internet et aussi sur X. C'est la fin du quart d'heure e-sport dédié à l'Ozo French Tournament sur Studio ZEF. Merci de m'avoir suivi tout au long de l'émission. D'ailleurs, cette émission et les anciennes émissions du quart d'heure e-sport sont disponibles sur studiozef.fr. Rendez-vous le 29 septembre prochain pour une émission sur la playlist du quart d'heure e-sport spéciale musique de League of Legends. En attendant, retrouvez le quart d'heure e-sport sur X, Instagram et aussi sur Discord. A très bientôt sur Studio ZEF. Le quart d'heure e-sport, une émission sur l'actualité et l'agenda des tournois e-sport locaux, nationaux et internationaux. Retrouvez-nous tous les dimanches à 14h sur Studio ZEF.